Insania, vous parliez tout à l'heure de l'humain, de l'humanité, Bachar l'IA peut-être. Est-ce que pour vous, il existe un humanisme, j'allais dire un humanisme religieux, à tout le moins un humanisme islamique? Qu'est-ce que ça signifie? Quel contenu, si la réponse est oui à cette question, quel contenu y met-on? Et avant de vous laisser y répondre, on a souvent critiqué la notion d'humanisme en disant que c'était une production issue de la modernité qui avait produit finalement un déplacement du champ de gravité du théomorphisme ou du théocentrisme, pardon, c'est-à-dire d'une vision du monde qui restait centrée autour de Dieu, à un anthropocentrisme, c'est-à-dire que c'est l'homme qui devient le centre de toute chose. Et que derrière l'humanisme de la Renaissance se cachait cette idée-là. Donc il y a souvent une critique d'une certaine vision religieuse de cette notion d'humanisme.
Il est très important d'avoir présent à l'esprit l'instant où qui a enregistré l'utilisation d'humanisme. Nous connaissons l'histoire, ce n'est pas le lieu de développer cela. Mais l'humanisme a suscité des divergences entre les existentialistes. On parlait de l'humanisme chrétien et l'humanisme prôné par Sartre et d'autres. Maintenant, le monde d'aujourd'hui subit les conséquences désastreuses de cette façon de voir. Cette façon de voir, à son époque, était justifiée. Parce que le monde, l'humain, était à la recherche d'un appui. Il s'est détourné de toute une idéologie qui s'imposait à l'homme pour s'attacher à une nouvelle façon d'humanisme. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire, et je me rappelle d'un grand philosophe chrétien français qui a réagi aux existentialistes français et autres en parlant de l'humanisme intégral. Nous n'avons pas le temps d'analyser à fond ces termes, mais c'est très important de les avoir présents à l'esprit. Pourquoi? Parce que notre discours, en tant que musulman, inscrit dans la cité française multiculturelle, multireligieuse, multi-histoire, multi-exceptionnelle, et toutes ces données pourraient être source d'enrichissement mutuel, à condition d'être conscient de notre responsabilité individuelle et collective. Donc, c'est l'islam, dès le départ, nous a proposé ces deux pôles. Le monde, nous vivons dans le monde dont le propre est la dualité. Vous voyez ce qui est ce que exposé à votre vue, mais vous ne voyez pas cela. Mais en réalité, malgré les empêchements de voir les deux, la face et son contraire en même temps, ce que je vois dépend de ce que je ne vois pas. Et ce que je ne vois pas projette à ma vue ce qui s'inscrit dans ce que l'on appelle le monde de la manifestation, alamu shahada. La shahada que je dis, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, reste incomplète. Elle exige de moi de passer de la shahada cardiaque, de la shahada langagière, à la shahada comportementale. J'atteste. Et pour attester, cela nécessite d'être présent. Présent au sens usé du terme que nous utilisons tous les jours, est présent au-delà de faire de ma présence physique une présence cadeau. Tout cela reste inscrit, enfermé dans le registre des notions, des idées. Mais l'islam exige des musulmans de passer de la notion pensée à la notion existante, à la notion réalisée.
Toujours sur cette idée de l'humanisme, est-ce qu'on peut concevoir que finalement l'altérité, Dieu dit dans le Coran qu'il a créé les peuples et les nations ou les tribus pour qu'elles s'entreconnaissent, donc l'entreconnaissance des nations, donc dans leur diversité, hein, implicitement dans leur diversité anthropologique, culturelle, religieuse aussi. Donc sur la base de ce signe coranique, est-ce que, et pour essayer de donner un contenu à cette notion d'humanisme, vous rappeliez que nous vivons aujourd'hui dans des sociétés multiculturelles, multiconfessionnelles, et que les musulmans doivent pouvoir penser cette notion de différence, d'altérité, et donc d'humanité finalement. Est-ce qu'on peut considérer que l'autre finalement, que le musulman a besoin de, quelque part de cette différence pour accomplir spirituellement et peut-être même éthiquement, voire intellectuellement, son islam, entendu cette fois-ci pas au sens peut-être particulariste, mais au sens général du mot islam qui est de s'en remettre exclusivement à la volonté de Dieu. Je ne sais pas si ma question est très claire.
Oui, c'est très clair et c'est très crucial comme question. Dans ce verset, il est très important de relever deux notions. Il y a Eyohannas, premièrement, ça c'est le début, il y a Eyohannas. Cela concerne tous les êtres humains. Quoi ? Le début de cette phrase, premièrement, Allah Jalla Jalaluhu, Dieu, subhanahu wa ta'ala, s'adresse au fils d'Adam, depuis Adam jusqu'à la fin du temps. Et cette interpellation traverse tous les lieux et tous les instants. Inna khalaqnakum. Cela, on peut l'appeler une phrase informative, déclarative. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Aucune puissance dans ce monde ne pourrait démentir cette vérité. Même ceux qui ont abordé la question idiote de l'évolutionnisme dans l'histoire de la culture occidentale, non. Personne. C'est une réalité inchangeable, qui refuse toutes sortes de modifications. Et jusqu'à maintenant, l'être humain, intrinsèquement, est lui-même. Mais, la deuxième notion, وَجَعَلْنَاكُمْ. Certains traducteurs commis une faute en traduisant le mot ja'alnakum par avons créé, non. Ja'alnakum, nous vous avons assigné. Ce que l'on appelle, ce qui relève de cette assignation divine, est proposé au choix de l'individu. Si, pendant un certain temps, ceux qui peuplaient la terre ont décidé d'appliquer cette règle, c'est-à-dire les uns font partie des autres, ça réussit, les moments de paix. Des moments secoués par les guerres, la haine, ce sont des moments qui nous informent sur la désobéissance des êtres humains quant à ce à cet impératif divin. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Nous sommes jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin du temps, des peuples, la diversité géographique, la diversité culturelle, toutes sortes de diversités. Mais on peut suivre les directives de Dieu comme on peut les refuser. Et maintenant, nous avons, pendant des siècles et des siècles, l'humanité a fait l'expérience de la désobéissance et nous sommes tous actuellement en train de subir les conséquences désastreuses d'une désobéissance qui ne désire pas son nom. Nous n'avons aucun pouvoir quant au changement de cette diversité, mais nous avons le pouvoir entièrement et foncièrement de mettre en application cette directive divine. Et l'avenir de l'humanité, l'avenir de l'humanité, si elle décide de ne pas trahir l'esprit de son humanité, ne résidera que dans le retour au respect individuel et collectif de ce principe divin pour que nous puissions réaliser ce que Dieu a voulu de nous.
Vous disiez que l'humain vient d'un couple, donc d'une dualité, donc d'une pluralité. Ouais. Et finalement, Dieu aussi dit dans un autre signe coranique que si nous avions fait de vous une seule communauté, la corruption serait apparue. Donc finalement, on a presque l'impression que cette différence, cet éloge de la pluralité est le moteur de l'histoire, et c'est-à-dire une condition du perfectionnement des humains, et que il faut que cette différence est nécessaire, puisque si tous les humains étaient parfaitement homogènes et qu'ils failliraient dans leur modèle d'homogénéité, ils failliraient tous finalement, et cela entraînerait la perte d'une certaine manière de l'humain.
Ouais, ceci pourrait être éclairci par cette comparaison, celle de concevoir l'ensemble de l'humanité comme un organisme. Et nous avons à chacun de nous l'exemple concret. Je suis un organisme et je constate que cet organisme fonctionne de la façon la plus parfaite. Et cette perfection relève de la complémentarité de tous les membres. Quand on respecte les règles selon lesquelles Dieu a édifié à travers nous cet organisme, on voit une solidarité, une complémentarité. Prenons cet exemple simple. Je vois, j'entends et j'agis. Avant d'agir, j'aurai besoin de permettre la circulation des énergies de mon oreille, de mes yeux et de mes mains. C'est ce composé harmonieux qui permet à chacun d'entre nous de mener une vie harmonieuse. Mais la dislocation de cette unité, diversité fonctionnelle, la diversité n'est pas une hiérarchisation supérieure ou pas supérieure, blanc ou pas blanc, ou civilisateur, barbare, là, non, c'est une variation fonctionnelle, c'est au sens de la fonction. Et nous avons fait faillite à ce qui est fonctionnel. C'est cette fonctionnalité qui, suite à une vue étriquée, qui est en panne. Heureusement que nous aurons la possibilité de revenir et de dire, tiens, c'est ça le sens de repentir. Je me suis trompé, je me réveille et je me vois de plus en loin éloigné de Paris alors que mon objectif premier était de venir à Paris. Qu'est-ce que je fais? Ça ne sert à rien de maudire le passé, mais dit, tiens, je change de direction. Et je me dirige, c'est ça le sens de Taouba, c'est revenir de ses erreurs pour que Dieu revienne de sa rigueur. Nous, on persiste dans l'erreur et on exige de Dieu d'être clément à l'égard de nous. Ce n'est pas juste.
Peut-être un retour quand même sur cette idée du rapport au Coran, qui est quand même une idée très importante que vous avez développée, avec cette question, quel rôle le Coran joue-t-il dans notre vie, ou quel rôle devrait-il jouer? Il y a un descriptif, quel rôle joue-t-il aujourd'hui, donc ça c'est le descriptif, et qui devrait nous permettre de nous élever spirituellement, intellectuellement, éthiquement dans notre comportement. Comment parvenir à ces objectifs? Est-ce que les obstacles qui peuvent expliquer cette faillite relative qui détermine notre relation actuelle au Coran, est-ce que ce sont les méthodes d'éducation qu'il faut revoir d'enseignement du Coran? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réformer cette faillite actuelle, et quelles seraient les priorités pour vous en termes concrets, très concrets, qui nous permettraient de faire que le Coran joue un rôle effectif dans notre existence?
La question est très très épineuse, très difficile, et c'est l'entassement des conséquences de nos comportements, des siècles et des siècles. Et le Dieu, subhanahu wa ta'ala, s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire « Wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnas » Nous t'avons révélé le rappel. Ce n'est pas par hasard. L'un des noms du Coran, c'est le rappel, Yudhakiruni. Il me rappelle. Litubayyina linnas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assumé bellement et complètement la mission de tabyin. Bayyinli, montre-moi. Il nous a montré par les paroles coraniques et par son comportement le chemin à suivre et l'attitude à prendre. Pendant un certain temps, une lacune s'est creusée entre ces deux éléments d'explication. L'élément explication comme écrit persiste, mais l'élément modèle s'est éclipsé, pas totalement, heureusement, mais maintenant, il faut rééquilibrer la chose, il faut concrétiser l'explication et le chemin, et par la parole, et par le modèle. Sayyidatna Aisha, radiyallahu anha, a été questionnée à propos du mœurs, de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se conduisait dans tous les domaines. Qu'a-t-il dit ? Il a dit, c'est le Coran. Lisez le Coran et observez le prophète, vous allez découvrir l'essentiel ou le cœur ou l'esprit de votre conduite. C'est ça qui nous manque. La belle parole, si elle n'est pas suivie d'une belle conduite, ça ne sert à rien. C'est science-fiction. Au moins, il y a un aspect positif dans le domaine des science-fiction si on lit ceux qui ont procédé à cette recherche, où on peut leur comprendre.
Avant de terminer, peut-être un mot sur cette question de l'adoration de Dieu qui est au cœur de tous ces échanges, de toutes ces discussions. L'ibada, un terme auquel on donne souvent un sens exclusivement cultuel, rituel, la prière, les actes d'adoration, etc. Quand vous pensez à cette notion d'adoration de Dieu, à quoi pensez-vous et quel est le sens qu'on peut donner à cette notion pour essayer un petit peu de comprendre la richesse de sa perspective? Est-ce que Est-ce que limiter cette dimension, est-ce qu'adorer Dieu, c'est exclusivement passer par le rite ou le culte, ou est-ce que c'est une vision beaucoup plus large? Et quelle est cette vision, et quelle est la fonction qu'elle doit remplir, ou quel est son objectif finalement?
Même avant le Coran, les Arabes antérieurs à l'islam connaissaient le terme « ibada ». Et le Coran a usé du parler arabe en enrichissant le sens des mots utilisés. Le mot ibada, on le trouve dans la poésie antérieure à l'islam, Shi'r al-Jahili. Mais la ibada est l'idée centrale de l'islam. Le mot ibada évoque une autre notion. C'est celle de la seigneurie, Rububiyya. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Et l'ibada se subdivise en deux parties. La ibada créaturelle. Al-Shams fait fonction de ibada. Comment? Shams ne rate jamais l'heure du lever. Sauf des exceptions. Quand il y a exception, en quelque sorte, exception bien sûr, qu'on peut expliquer par les notions scientifiques, mais au-delà des notions scientifiques, au-delà des principes cause à effet, il y a aussi, peut servir de signe. Shams ou al-Qamar, signe. Shams ta'bud, le Coran nous dit cela, tous les êtres existentiels ne font que glorifier Dieu. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Et chaque élément assume cette prière, cette reconnaissance à l'égard de Dieu selon un mode particulier à chaque espèce. Les êtres humains, quand je dis le meilleur attribut que l'on puisse donner à l'être humain, c'est an yakuna abd. Abd, je suis à 100% dépendant de Dieu. Quant à la création, je ne suis pas indépendant, je suis interdépendant. Je ne suis pas seul. C'est cela dont la ibada englobe. La ibada créaturelle fonctionne parfaitement. La ibada du côté des humains, souvent, fait faillite. Et c'est notre cas. Et je ne parle pas des rares exceptions. Pour nous, maintenant, malheureusement, je me considère comme serviteur, adorateur de Dieu, peut-être 25 minutes par jour, lors des prières rituelles. Et les espaces, les intervalles entre la prière de Sobh et de Dhuhr, je ne suis plus Abid, je suis qui? Entre Dhuhr et l'Asr, entre l'Asr et le Maghrib, non. Ce sont des moments, une sorte d'air, comme on fait un long chemin, de temps en temps, on marque une pause pour se reposer, pour reprendre le souffle. Arihna biha ya Bilal. Ma'na dhalika, la course pour accumuler ce qui nous rend lourd, de temps en temps, salat. Cinq fois par jour, ne rêvez, tu n'es pas le maître de ce monde. Tu n'es qu'un petit élément d'entre des milliards et milliards d'éléments. La seule différence, c'est que en dehors de l'espèce humaine, les êtres qui sont en dehors de l'espèce humaine ne sont pas responsables légalement. Quant à l'abd, je suis responsable légalement, ana mukallaf. Dieu m'a chargé. Il faut que j'assume cette charge. Et le Coran nous parle des gens qui ont été chargés de porter la responsabilité, mais ils ont refusé de charger. Et le Coran utilise deux mots. Humilo, être chargé, et hamalo, ils ont refusé de yahmel, de se charger. Donc l'ibada, c'est une notion centrale, mais malheureusement, le sens que nous donnons à l'adoration est un sens erroné. Et nous payons les conséquences destructeuses de cette compréhension incomplète.
Alors, quelle est justement la bonne, ou en tous les cas, quelques aspects de la bonne compréhension de cette notion? Vous parliez de reconnaissance. Est-ce que adorer Dieu, c'est exprimer sa reconnaissance? Est-ce que c'est l'amour? Ou est-ce que l'amour est un autre degré que la ibada? Idriss DeVos traduit ibada par service adoratif, parce qu'il y a la notion de service.
Pourquoi il a raison? Parce que le mot service dans la langue française, ou plutôt dans la langue courante, cela nous rappelle les périodes où il y avait ce décalage entre le seigneur, l'aristocrate, ou tout ce que vous voulez, les qualificatifs changent en fonction des changements de temps. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle ceux qui parlent du Coran choisissent d'ajouter au serviteur adorateur, pour dire que je ne suis pas au service au sens de... Maintenant, il suffit de jeter un coup d'œil sur le petit Robert pour trouver cela, et ajouter au mot serviteur adorateur, c'est pourrait enlever toute ambiguïté. Je suis... Et la ibada, c'est... implique l'amour qui déclenche la conformité. L'ibada est un lien d'amour. Cet amour n'est pas neutre. L'amour vrai qui répand le souffle de l'amour divin dans le cœur de l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Sidna Bilal, « Oh Bilal, viens, donne-nous la possibilité de nous rejoindre. Arihna biha. » La course dans la vie a fait naître à nous la lassitude et l'insatisfaction. Donne-nous l'occasion de prier. Et la prière régénère en nous notre esprit. Mon corps vient de la terre. Et mon corps, je ne dois pas me réduire à mon corps. Mon corps n'est que la vitrine qui permet à moi-même et à mes semblables de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Sont quelque sorte de chantillon. Je ne suis pas réductible à mon corps. C'est même le corps, ce qui est visible de l'être humain est beau. Dieu le décrit comme ça. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. La forme la plus belle. Et أحسن veut dire la beauté, il veut dire aussi la bienveillance. Comment remercier Dieu qui m'a donné cette belle apparence? La réponse, c'est par la bonté cardiaque et la beauté relationnelle. En islam, la bonté et la beauté sont inséparables. Et la beauté n'exige pas de faire une spéculation. Comme on demande à l'école aux enfants d'écrire, de développer un texte, c'est vivre, vivre. Moi, je n'ai jamais entendu une fleur faire un discours sur sa belle odeur. Non. On se trouve dans une forêt très dense. Comment découvrir l'existence d'une fleur caché, si ce n'est par son odeur? C'est l'odeur de la fleur qui m'énonce l'existence de la fleur. Je n'ai pas besoin de dire je suis ceci, je suis beau, je suis le meilleur, je prie. Non, C'est pour cela, en dehors des prescriptions obligatoires de la salade, de la prière, non, les gens qui font le nawafil, ce sérérogatoire, le font en cachette. Cachette. Ce n'est pas le temps. Donc, c'est à nous de remettre... nous faisons du mal à l'horloge intérieure de nous. Ceux qui pourraient expliquer pourquoi ce manque de respect à propos du temps. Dieu nous a donné à toutes les créations humaines, non humaines, 24 heures, c'est 24 heures. Qu'est-ce que nous avons fait? Quelle est la liste de bienfaisances réalisées pendant ces temps? Donc, le temps chronologique ne dépend pas de moi. Mais ce que je dois mettre dans ce temps chronologique dépend 100% de moi. Donc, être la ibada, être sensible de la succession du temps, être sensible de la bienveillance de l'espace, être ceci, être cela. Maintenant, nous pouvons voir le chemin à poursuivre grâce à la lumière du jour, ou la nuit grâce à la lumière électrique, malgré les conséquences désastreuses de l'énergie. Et nous y sommes, nous sommes responsables de tout cela. Mais la prière, nour, as-sabr, nour, jeûner, nour. Alors, si je ferme les yeux, que l'on cesse d'insulter le soleil brille. Mais ne peut sentir, ne peut profiter de la clarté du soleil que ceux dont les yeux sont ouverts. Fermez les yeux, le soleil ne tient pas compte de nous. Que l'on ferme les yeux, c'est dans notre perte. Et si on ouvre les yeux, c'est donner la possibilité à la vivacité cosmologique de nous donner toutes les possibilités de décoller et de quitter définitivement le sol qui ne fait que s'écrouler devant nous et avec nous.
Alors, un dernier point pour conclure avec vous, cher Gérard Bekechat. Vous parliez aussi tout à l'heure de la relation entre la ribada et la rububiya, donc pas de habit sans rab. Et on sait aussi que l'un des sens de rab, c'est l'éducateur, celui qui éduque. Ouais. Est-ce qu'on peut dire sur la base de cette relation que l'adoration, la ribada, une adoration accomplie, est un processus d'éducation, puisque pas de habit sans rab, et qu'une adoration accomplie est une éducation accomplie? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là, et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que cette éducation, finalement, prend comme modèle les noms et les qualités divines? Voilà.
Oui, tarbiya, l'éducation. Dans l'éducation, le terme éducation implique al-murabbi, celui qui se charge d'éduquer. Il murabba, celui qui reçoit les préceptes et apprend les pratiques de cette éducation. Cela nous rappelle, on peut le clarifier davantage en évoquant le lien qui existe entre le cultivateur et un morceau de terrain. Le cultivateur aime le champ. Le cultivateur ne crée rien. Le cultivateur commence par concevoir les possibilités que représente le terrain. Le terrain, et le Coran nous parle du terrain fertile et du terrain stérile. En utilisant cette image, où le balad al-tayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbi. Le balad al-tayyib, le terrain bon, pur, fait germer notre ensemence. Donc c'est le lien entre le cultivateur qui connaît sa terre, qui aime sa terre. Le cultivateur est appelé à aborder, l'éduquer. L'éducateur est appelé à tenir compte de la nécessité d'aimer la personne à éduquer. Donc il y a une affinité, c'est-à-dire une complicité, ta'awun, il y a une solidarité. C'est le lien d'abord d'amour. Et Dieu Jalla Jalal nous a donné la foi, il nous a imposé. Il a dit, c'est Dieu qui vous a fait aimer la foi. Et dans d'autres contextes, Dieu a inscrit la foi dans vos cœurs. Mais quand la foi n'est présente qu'au niveau de la parole, non, il ne faut pas s'attendre à cela, à rien du tout. Donc la notion d'éducation, on dit souvent, et quel beau dit, Dieu a éduqué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le Coran, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqués par le Coran qu'il habitait. C'est ça qui nous manque. Donc, un seul chaînon coupé de toute la chaîne, et c'est l'échec total malgré les grands slogans et les bonnes intentions. C'est à nous de prendre notre responsabilité, et cela nous fait rappeler tout ce que vous avez annoncé dès le départ. Dieu nous a dotés de toutes les facultés qui nous permettent d'être en harmonie avec l'environnement social, l'environnement cosmologique et les attentes de la Terre de nous et nos aspirations qui visent l'au-delà. Même l'au-delà n'est pas aujourd'hui, il est maintenant. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'il est question de l'iman, de la foi concernant l'autre monde, est lié à dunya. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, prends patience et reste avec ceux qui invoquent Dieu le matin et le crépuscule. Dans quel sens? مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. En inspirant que le contentement et la satisfaction de Dieu. Et quand on assure, quand on est sûr de l'obtention de la satisfaction de Dieu, toutes nos activités, toutes nos relations seront guidées, illuminées par cette lumière divine qui s'est traduite par notre installation provisoire sur cette terre qui nous permet de tenir compte de notre demeure ultime. Nous ne sommes que des passagers et nous avons toutes les possibilités pour laisser derrière nous des traces qui permettront aux générations à venir de souffrir moins que nous.
Merci, Rabbi Keshat. Merci beaucoup.